Biston clac, nous aimons la chanson française. Biston clac, mais nous détestons les fadaises, qu'elles soient françaises ou javanaises. La balourdise, ça nous défrise. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin se mêle l'apôtre. Cette phrase est notre devise, notre devise. Biston clac, biston clac, biston clac. D'accord pour les chanteurs, poètes. Biston clac, né dans le Rhône ou à Perpète. Suffit qu'ils mettent nos cœurs en fête. La poésie n'a pas de patrie. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin ce bel apôtre. Voilà notre philosophie, philosophie. Biston clac, biston clac, biston clac, biston clac, biston clac, biston clac.
Bonsoir, 23 avril 2007, nous vous proposons ce soir une émission Biston clac, thématique consacrée à un thème, la guerre d'Espagne. Alors pourquoi aujourd'hui plutôt qu'à une autre date? Pourquoi pas d'ailleurs? Mais quand même, il y a une raison un petit peu particulière qui nous a fait flasher sur cette date, c'est le fait que le 26 avril 1937, il y a donc 70 ans, avait lieu le bombardement de Guernica. Donc il convenait de ne pas passer sous silence cet événement et nous avons choisi d'en parler avec Alain Bujard qui est responsable de l'Institut CGT d'Histoire sociale Rhône-Alpes et qui s'est beaucoup intéressé à cette question, comme à beaucoup d'autres bien sûr, mais en particulier en 2004 à travers la réalisation d'une exposition qu'on avait pu voir à la Maison du Livre Images et Sons Mitterrand à Villeurbanne sur le thème la guerre d'Espagne, enfin les affiches de la guerre d'Espagne. Donc Alain, bonsoir.
Bonsoir.
Je vous propose donc d'évoquer un petit peu la guerre d'Espagne, mais peut-être plus largement le contexte dans lequel on essaiera, en une heure c'est difficile, c'est court, d'aller depuis avant la guerre d'Espagne, au début de la République espagnole, jusqu'au sort des réfugiés d'après la guerre d'Espagne et leur rôle même dans la résistance en France, quoi. Voilà, un beau programme.
Oui, vaste sujet qu'on va essayer de synthétiser au maximum, donc par avance, excusez-moi des formulation rapide, voire des visions un petit peu synthétiques que l'on peut faire, mais on va essayer de développer assez rapidement les choses. La première des choses qu'il faut bien avoir présent à l'esprit, c'est que l'Espagne entre dans le XXe siècle avec quelques retards. En particulier, dû au fait que l'Espagne a été absente de la guerre de 14. Elle a donc, de ce point de vue-là, du fait de sa neutralité, une position qui est un petit peu en retrait de tout le reste, que par ailleurs sa situation, je dirais, sociale générale est extrêmement en retard. On pourrait presque dire qu'on est encore au Moyen-Âge en Espagne. En gros, c'est un pays agricole aux mains de grands propriétaires terriens, une industrie qui s'est un petit peu développée à l'occasion justement de la guerre de 14, qui a donc généré un nord espagnol un peu plus industrialisé que le reste. Et puis surtout politiquement, c'est un système qui est donc une monarchie, qui est fondée sur ce que l'on appelle le régime des caciques, c'est-à-dire les responsables régionaux qui font la pluie et le beau temps en matière de représentation. Et donc, on se trouve là avec une bourgeoisie qui petit à petit a quand même tiré quelques bénéfices de l'industrialisation, qui ne sont pas pour autant des capitaines d'industrie, mais plutôt des bourgeois qui gèrent leur patrimoine, j'ai envie de dire, en père de famille, c'est-à-dire très prudent. Et donc, de ce point de vue-là, il y a plus une accumulation de capital qu'une mise en valeur de celui-ci. Il y a donc, c'est une monarchie qui prend appui sur l'Église et sur l'armée essentiellement. Et donc, ces forces quand même à la fois ouvrières concentrées dans le Nord et une partie de cette bourgeoisie, petite bourgeoisie, moyenne bourgeoisie, ont quand même le sentiment que le régime n'est plus adapté à la situation. D'une certaine manière, on peut dire toute proportion gardée bien évidemment, mais c'est que les mutations telles que tout à l'heure vous l'avez rappelé à propos des élections que nous venons de vivre, car nous aussi nous vivons une mutation, eh bien les mutations se font toujours avec quelques douleurs. Ces douleurs, eh bien elles vont se traduire par justement une république qui est proclamée à la suite de l'abdication du roi, et puis assez rapidement les errements, les difficultés de ce mouvement, cette première république, vont amener une contestation sociale importante qui débouchera sur, en 1936, la réalisation du premier Front populaire qui précédera de peu de mois le Front populaire en France.
Donc la République espagnole, 14 avril 1931, c'est ça?
Voilà, c'est la première République espagnole à ce moment-là. Donc, lorsque le Front populaire arrive au pouvoir, eh bien, à partir de ce moment-là, les difficultés commencent, car la droite, qui déjà manœuvrait dans l'ombre, cette fois, va se décider à franchir le pas. Et le 18 juillet, c'est le putsch déclenché par les généraux félons, à la tête duquel se trouve le général Franco. On peut faire quelques remarques là-dessus, c'est que comme toute action militaire ou toute atteinte à un État quelconque, ceci n'apparaît pas comme un coup de tonnerre dans un ciel sans, hein, comme dit l'autre. Mais il s'agit de quelque chose qui est préparé de longue main, et même, on sait pertinemment que le gouvernement de l'époque, qui est présidé par Quiroga, était au courant de ce qui se tramait. Et il n'est pas exclu que d'aucuns aient pensé pratiquer la politique du pire en disant, eh bien, venez donc voir, on va leur filer une bonne pilée, et comme ça, nous pourrons asseoir beaucoup plus sérieusement la République. Bon, propos sans doute un petit peu plus qu'audacieux, mais sans aucun doute irresponsable. Donc, lorsque le putsch se déclenche, très rapidement, est posé le problème du champ géographique de cette guerre, c'est-à-dire se limite-t-elle à l'Espagne ou déborde-t-elle? Eh bien, cette guerre déborde très rapidement pour une raison simple, c'est que les généraux félons n'ont quand même pas les moyens de mener à terme leur opération. Alors, après avoir réussi à partir du point de départ le Maroc espagnol, donc la légion étrangère espagnole avec les troupes marocaines recrutées sur place, ils arrivent donc à s'implanter dans les villes du sud essentiellement, mais très rapidement, la population des grandes villes se saisit des armes dans les casernes et va défendre la République en s'opposant au ralliement des militaires au putsch qui est en train de se développer. Donc en gros, le sud est aux mains de Franco et le nord et l'est ne bougent pas. Pour arriver à ses fins, eh bien, Franco a besoin d'amener ses troupes massivement en Espagne. Et comme la marine espagnole est restée attachée à la République, il n'a donc pas de moyens d'emmener massivement les troupes. Aussi, il va faire des demandes en direction des Italiens, Mussolini, et de l'Allemagne avec Hitler. Il y a une espèce même de jeu de surenchère entre les deux. Tiens, les Italiens m'ont donné tant d'avions, de ce côté-là, il n'a pas de peine à s'approvisionner en avion.
Il les donnait pas tant que ça, parce qu'il les payait quelque peu.
Alors, ils seront payés, en particulier l'aide qui est fournie par l'Italie sera payée. L'Espagne payera sa dette jusqu'en 1956, si mes souvenirs sont bons. Et même si le montant qui lui est réclamé ne correspond pas tout à fait parce qu'on lui aura consenti un bon rabais, il n'empêche que, même entre voyous, on se fait pas de cadeaux. Donc on a les avions italiens et on a les avions allemands qui vont servir à transporter les troupes. À partir de ce moment-là, la République se trouvant agressée et en plus agressée avec une aide extérieure, demande à ses pays alliés ou à ces pays avec lesquels elle entretenait de bonnes relations d'obtenir elle aussi des armes. Alors c'est un cas particulier avec la France par exemple, car depuis 1934, un accord avait été signé avec la France pour que celle-ci fournisse à l'armée espagnole des armes. Et donc il y avait même eu des versements qui étaient compensés par un dépôt d'or à la Banque de France, à Mont-de-Marsan. Et donc, lorsque la demande est faite au gouvernement de Léon Blum, qui vient d'accéder au pouvoir avec le Front Populaire, la première réaction, c'est de dire « il n'y a pas de problème, nous honorons la demande ». Mais l'ambassadeur espagnol à Paris, au courant de ces tractations, tire la sonnette anglaise, pourquoi anglaise, on le verra peut-être par la suite, en disant « il se passe des choses, là, la France va aider l'Espagne ». Et donc si la France aide l'Espagne, ça va peut-être poser des problèmes aux Anglais, lesquels sont, il faut bien le dire, peu favorables à la République espagnole. On a même des déclarations du genre très triviales en disant « si les fascistes et les bolcheviques s'entretuent en Espagne, tout ça c'est bon pour les Anglais ». Oui, d'accord, mais enfin, on n'a pas plus de documents du type ministère des Affaires étrangères ou autre qui prouvent qu'il y a véritablement une réserve de la Grande-Bretagne vis-à-vis de l'Espagne. Mais il est clair que son attitude montre qu'ils sont quand même plus que réservés, au moins sur deux plans. Première chose, la marine anglaise, dont on sait qu'elle est omniprésente, eh bien, va contrôler de manière extrêmement sévère les navires espagnols, ceux-ci s'étant restés républicains, va par ailleurs fournir une aide aussi pour que Franco puisse se déplacer, et en particulier fournira des avions, mais d'une manière tout à fait clandestine, j'ai envie de dire. Et tout au long de cette période, eh bien, dans les contacts avec la France, ça se résume en gros à ceci. Écoutez, si vous aidez l'Espagne républicaine, il est vraisemblable que nous ne pourrons pas y aller et qu'à ce moment-là, vous risquez de vous retrouver tout seul face à des États fascistes qui montent en puissance et nous n'irons peut-être pas vous aider le moment venu. Donc il y a un vrai chantage qui est fait par la Grande-Bretagne sur la France et c'est à partir de cette donnée-là que Léon Blum invente ce que l'on connaît sous l'appellation de non-intervention. Alors la non-intervention, c'est quoi? Eh bien, c'est dire, puisque personne n'a l'air de vouloir aller aider, hormis les puissances fascistes, eh bien, nous allons signer un pacte commun renonçant à toute intervention dans les affaires intérieures de l'Espagne. Alors on réunit une conférence internationale, pas de problème, tout le monde est d'accord, l'Allemagne nazie signe, l'Italie de Mussolini signe, tout le monde est pour la non-intervention. L'Union soviétique aussi signe. Mais Deux mots sur le fonctionnement de ce comité de non-intervention. Il est présidé par un Anglais. Et la règle veut que, lorsque l'on constate un manquement à la non-intervention, eh bien, la plainte est donc transmise à l'État qui est mis en cause, lequel devra fournir des explications. On peut imaginer, par exemple, la France disant « Tiens, l'Allemagne a envoyé des avions ». Ah bon, on transmet à l'Allemagne, voilà, il paraît que vous avez envoyé des avions, et l'Allemagne va répondre et se justifier. Donc ce truc-là tourne assez rapidement à la farce, et c'est ce qui motivera le départ du comité de non-intervention de l'Union soviétique qui dira « Nous reprenons notre parole, on est complètement libérés du comité de non-intervention et nous allons aider la République espagnole ». En fournissant matériel militaire, munitions, vêtements, carburant et tout ce qu'il faudra pour faire fonctionner une armée. Les Allemands et les Italiens continuent leur intervention de la même manière. Les Français n'interviennent pas, même si au début, d'une façon tolérée de la part du gouvernement, il y a fourniture d'avions en particulier aux républicains espagnols. Ça sera les avions qui constitueront la fameuse escadrille que commandera Malraux. Mais et c'est, ils sont aidés en ceci par deux hauts fonctionnaires, dont l'un laissera une trace dans l'histoire, c'est Jean Moulin, puisque Jean Moulin est à ce moment-là le chef de cabinet de Pierre Cotte, qui est le ministre de l'Aviation. Et l'autre haut fonctionnaire, qui est Robert Cusin, qui est lui chef de cabinet de Vincent Auriol, lequel est le ministre des Finances, c'est-à-dire celui qui a la haute main sur les douanes, donc sur l'art et la manière de passer la frontière. Donc voilà, ces deux personnes vont aider considérablement au passage d'avions et d'armes en Espagne, jusqu'à ce que ils soient contraints de mettre un terme à toute cette aide. Donc voilà ce qu'est cette non-intervention et la farce de la non-intervention au plan des États.
On fait une pause musicale ?
Une petite pause musicale.
Avec Marineros, c'est un chant républicain.
¿Dónde está? Yo te guardaré un dios en el fondo del mar.
No hay quien pueda con la gente marinera luchadora que defiende su bandera.
El Baleares está, Dios, ¿dónde está? Esa espada le hundió en el fondo del mar.
Marineros, un chant de républicain espagnol, donc nous vous proposons, dans le cadre de cette émission consacrée à la guerre d'Espagne, avec Alain Bujard, responsable de l'Institut CGT Rhône-Alpes, enfin d'histoire sociale Rhône-Alpes, qui évoque avec nous la guerre d'Espagne et au fil de celle-ci, la période, on y arrivera tout à l'heure, du 26 avril 1937, le bombardement de Guernica. Mais on n'y est pas encore.
Mais ça s'approche. Alors, dans cette affaire de non-intervention, il faut aussi citer deux aspects des choses. C'est que les puissances qui ont donc signé le pacte de non-intervention se répartissent la surveillance des côtes espagnoles Et donc, parmi celles-ci, bah, évidemment, la marine allemande, la marine italienne vont surveiller les côtes de manière à ce que la marine espagnole ne puisse pas ravitailler l'armée républicaine. Donc il y a quelque chose qui vraiment est tout à fait paradoxal et incompréhensible, ou trop bien compréhensible, je ne sais comment dire les choses, je laisse à chacun de le juger dans l'affaire. Un État dont on parle peu en matière de non-intervention, c'est le Portugal. Parce que le Portugal occupe quand même une situation géographique tout à fait particulière, et à la tête de l'État, il y a Salazar, qui est plutôt favorable, sinon à Franco, du moins aux idées qu'il présente. Et Salazar va mettre à disposition de Franco l'ensemble des ports portugais, va mettre à disposition l'ensemble des moyens de communication téléphonique, entre autres, et surtout, peut-être, va surveiller très attentivement la frontière entre le Portugal et l'Espagne. Car au fur et à mesure que les combats se développent, eh bien, les républicains poussés par les fascistes de Franco ont tendance à aller se réfugier du côté portugais. À ce moment-là, ils sont attendus, faits prisonniers et rendus à Franco, ce qui veut dire que dans ces conditions-là, ils avaient peu de chances de s'en tirer. C'est bien ce qui s'est passé. Donc il y a là aussi une responsabilité très directe du Portugal, assez lourde quand même, et que l'on oublie assez souvent. Cette non-intervention va entraîner aussi l'aide au moins d'un pays, mais qui hélas est un peu lointain, c'est le Mexique. On verra que le Mexique tout au long reste très favorable à la République espagnole, puisque, bon, j'anticipe et allons jusqu'au bout, c'est lui qui accueillera le gouvernement républicain en exil et qui jamais ne reconnaîtra le gouvernement de Franco.
Donc qui là, accueillera des centaines de milliers de réfugiés, non ?
Et qui accueillera bien évidemment énormément de réfugiés. Mais il est trop loin pour pouvoir fournir des armes parce qu'il faut traverser l'Atlantique et bien il faut pour ça pouvoir franchir les barrages et c'est pas comment. Donc beaucoup de convois risquent d'être coulés, voire même des armes détournées par exemple. Alors comment les républicains vont-ils s'en sortir face à cette situation ? Alors très vite, dès le début du putsch, il se trouve que les sportifs catalans avaient appelé au boycott des Jeux Olympiques de Berlin, parce que Berlin avait une position en matière de sport qui était plus que raciale et exclusive. Il ne permettait pas que les Juifs puissent venir s'entraîner sur les stades. Donc il y avait au minimum du minimum quelque chose de contraire à la charte des Jeux Olympiques. Il n'empêche que Avery Brundage, qui était déjà le représentant du CIO à l'époque, avait trouvé que tout ceci était tout à fait normal. Bon. Donc cet appel au boycott se traduit par l'organisation de Jeux Olympiques à Barcelone, qui devait commencer donc le jour même du putsch. Il y a donc à Barcelone beaucoup d'athlètes venant d'un petit peu tous les pays, et ce sont les premiers qui vont venir donner au coup de main aux Espagnols pour résister aux assauts franquistes. Et ça va être l'embryon d'un mouvement qui va se développer et qui va rentrer dans l'histoire sous le nom des Brigades internationales. Les premiers combattants sont essentiellement des Allemands ou des Italiens antifascistes qui ont donc fui leur pays et qui vont constituer les premiers éléments des colonnes. Alors on va voir à partir de ce moment-là affluer pas mal de volontaires. Avant que cet afflux soit organisé convenablement, avec bien évidemment l'accord du gouvernement républicain, c'est-à-dire à partir du moment où le Comintern décidera de l'organisation de brigades internationales, du recrutement de volontaires et de l'acheminement de volontaires. Alors sur ce sujet, on a beaucoup dit, Staline a dit que, en fait, il apparaît à peu près plus clairement que c'est essentiellement André Marty qui est à l'origine de cette demande et qu'elle traduit sans aucun doute une demande qui venait même de volontaires français qui piaffaient un peu d'impatience et attendaient le feu vert pour pouvoir partir. Donc il y a là très certainement quelque chose qui est beaucoup plus proche d'une décision, je dirais, décentralisée, même si elle finit par avoir l'aval de l'organisation de l'ensemble du Comintern. Marty, deux mots sur Marty. C'est donc lui qui sera envoyé en Espagne pour être l'organisateur des brigades internationales, à la fois au plan de leur formation militaire, au plan de l'intendance, au plan de la mobilité des unités constituées. Et Marty va rentrer d'Espagne avec une étiquette qu'aujourd'hui on peut dire infamante, car rien ne prouve que ceci corresponde à la réalité. Mais on trouve le portrait d'André Marty dans le livre d'Hemingway Pour qui sonne le glas, où il est présenté comme étant le boucher d'Albacete. Or, s'il est vrai que André Marty a la responsabilité de quelques exécutions, il s'agit, on trouve sa trace dans ses archives, d'exécutions qui correspondent, je dirais, à ce qui se passe dans une armée en campagne quand il y a quelques difficultés, soit de désertion, soit d'attitude plus de brigands que de volontaires politiques. Voilà pour la parenthèse. Peut-être qu'un jour, on lui rendra sa vérité.
Là, est-ce qu'on n'entre pas dans les conflits à propos de la guerre d'Espagne entre les anarchistes, les socialistes, les communistes et autres trotskistes qui composaient ces brigades internationales, quoi.
On est déjà dans les conflits, bien sûr. Donc, pour l'essentiel, les brigades sont donc constituées autour du mouvement communiste, c'est vrai. Il n'empêche qu'il y a des volontaires, qui sont des volontaires anarchistes, qui vont rejoindre des milices anarchistes, entre autres la colonne d'Urruti, ou bien des militants trotskistes qui vont rejoindre les milices qui ont été constituées autour du PUM, le Parti ouvrier d'unification marxiste de tendance trotskiste. Même si Trotsky prendra quelques distances vis-à-vis du PUM et de ses choix en matière de position pendant la guerre. Il est donc clair que là, on a une espèce de disparité politique extrêmement importante qui va générer pas mal de conflits. Alors, du côté communiste, l'épine dorsale du mouvement communiste en Espagne, au moment de la guerre, c'est donc le 5e régiment qui a été constitué sur une base tout à fait militaire, de gens disciplinés, avec une hiérarchie militaire doublée d'une hiérarchie politique. Quand les brigades qui relèvent de cette mouvance défilent dans les rues, c'est comme un défilé du 14 juillet, ce qui contraste beaucoup avec les défilés plus joyeux et plus débandés, j'ai envie de dire, des milices anarchistes ou même du PUM. Donc il y a là, au plan militaire, il y a une espèce de concurrence pour d'ailleurs essayer de récupérer d'abord des volontaires et puis surtout des armes. S'agissant des anarchistes, tout ce que j'ai pu trouver sur les anarchistes, aussi bien de courriers de la région ou de courriers provenant de la Suisse, où il y avait un forum ou un anarchiste, il relaie la demande des anarchistes espagnols qui, en gros, se résume à ceci. Des hommes, il y en a chez nous. Ce qui nous manque, ce sont des armes. Alors, plutôt que de venir encombrer les milices et arriver sans armes, mieux vaudrait que vous nous envoyiez des armes. En gros, c'est un petit peu ça. Ce qui n'empêchera absolument pas, évidemment, des gens de partir au titre d'anarchiste et aller se battre sur place. Bon, puis il y a aussi toujours... C'est un peu exagéré de parler du folklore anarchiste dans cette période-là, qui est quand même plus qu'émouvante, mais... Il est vrai que on a retrouvé des témoignages de gens qui s'étonnent que on fait un petit peu la guerre comme on va à l'usine. C'est-à-dire, on a fini la journée, on rentre chez soi, le fusil sur l'épaule, et jusqu'au lendemain, on reprendra la bataille. Ce qui fait que là aussi, il va manquer sur place, au moment des affrontements, des armes, puisque chacun est reparti avec son arme. Bon, il y a ça. Et puis, il y a, comment dire, il faut rajouter à tout ceci que dans l'aide que les soviétiques apportent à l'Espagne, ils viennent avec un encadrement militaire, ils viennent aussi avec une police militaire et une police politique. Et il est clair que de ce point de vue-là, c'est eux qui, j'ai envie de dire, vont pourchasser essentiellement les militants trotskistes du PUM et en assassiner un certain nombre. Ça, c'est connu, c'est avéré, c'est clair. Mais je pense qu'il faut bien distinguer le rôle des conseillers soviétiques et la part du gouvernement soviétique dans la guerre d'Espagne, du rôle et de la part prise par les brigades internationales. Les brigades internationales ne sont pas impliquées dans ces opérations de règlement de compte. Contrairement à ce que laisserait entendre, par exemple, le film de Ken Loach, Land of Freedom, où là on voit il y a quelques scènes où on laisse entendre que c'est pas le cas. Les brigades internationales sont trop impliquées dans la lutte qui est à mener, ne serait-ce que parce que la stratégie du moment, et qui va aussi faire la différence avec les autres, c'est que, un, il nous faut gagner la guerre, et ensuite nous parlons de la révolution sociale. Et on trouve à l'opposé, aussi bien trotskiste qu'anarchiste, dire non, on fait la révolution, et puis après, on gagnera la guerre. C'est en faisant la révolution que nous gagnerons la guerre. Hélas, les faits montrent que c'est bien la guerre qu'il fallait gagner, ne serait-ce que parce que dans certaines régions où les anarchistes sont assez nombreux pour avoir pris le contrôle des régions et donc organiser un petit peu la vie suivant ce qu'ils estimaient devoir être la vie des citoyens dans une vision anarchiste, c'est-à-dire on supprime la monnaie, on fait du troc, on organise des tas de choses, mais tout ceci marchait bien sur le papier, mais dans la réalité, ça marche nettement moins bien. Faire la guerre et pas s'occuper du bien-être des gens, ça pose aussi problème. Mais le gouvernement politique est quand même là aussi pour, entre autres, développer et l'éducation et l'état sanitaire de la population. Mais l'essentiel de son occupation, c'est bien évident, de faire la guerre. Et la guerre en Espagne, c'est pas une guerre en dentelle. C'est vraiment une guerre des plus cruelles que l'on ait pu enregistrer dans la période moderne. Alors comme dès le début, lorsque Franco met le pied en Espagne, on règle les différends par des fusillades massives. Lorsque là, au cours de la guerre, on ne fait pas les blessés ne feront pas de prisonniers, mais on les achètera. C'est moins encombrant. Les prisonniers sur le terrain, on en fera très peu. Les prisonniers qu'on va trouver sont les prisonniers que l'on fera après la victoire de Franco, lorsque Franco fera la chasse aux républicains. Donc les combats sont extrêmement violents, extrêmement durs. Avec deux parties qui sont quand même dans des situations inégales. Franco bénéficie d'un matériel qui est quand même moderne. Il bénéficie du fait que c'est lui qui commande l'armée de métier de la République. C'est lui qui dispose de troupes marocaines, les tabors marocains, qui se signaleront par une cruauté toute particulière. Et on a, de l'autre côté, des troupes qui sont donc soit les plus aguerris, et ça sera pour l'essentiel, l'ossature sera constituée par les brigades internationales. Il ne s'agit pas du tout de mésestimer la part que prennent les Espagnols eux-mêmes, car les Espagnols, c'est quand même eux qui sont en première ligne, et les brigades internationales, j'ai envie de dire, n'interviennent que lorsqu'il y a des situations difficiles. Dans la bataille de Madrid, par exemple, il est clair que l'intervention des brigades internationales va stopper l'avance de Franco. Mais tout le monde connaît ces images de la bataille de Madrid où on se tire dessus à bout portant dans la cité universitaire et pratiquement on envoie les grenades par l'ascenseur parce que l'assaillant est au-dessus ou au-dessous, donc c'est vraiment du pas de cadeau. En même temps, on a dit tout à l'heure que tu as parlé de Guernica. Eh bien, on expérimente aussi pendant cette guerre des méthodes de guerre tout à fait nouvelles. C'est la guerre par la terreur. Alors, lorsqu'il s'agit d'aller conquérir le nord, donc la Biscaye, donc Guernica est l'une des grandes villes, eh bien, c'est le général allemand von Richthofen qui commande la Légion Condor, qui va prendre en charge les opérations et réaliser une expérimentation en vraie grandeur en utilisant un bombardement massif de la ville, qui ne présente pas de sites militaires importants, mais c'est uniquement une population civile. Qui plus est, on choisit un jour de marché. Et non seulement on envoie des bombes, mais on envoie des bombes incendiaires. Donc c'est quelque chose que l'on, qui dépasse l'imagination à ce moment-là. C'est ce qui fait que Picasso, entendant parler de Guernica, lorsque les républicains lui en parlent, eh bien, bouleversé, va produire ce tableau qui aura fait le tour du monde et qui rendra célèbre Guernica, aussi bien par ce tableau que par la tragédie dont elle fut la victime.
Alors, on dispose à propos de Guernica d'un très beau poème de Paul Éluard qui a illustré un film, enfin, dans un deuxième temps, dans
oui.
un point,
oui.
le film de qui déjà, j'ai oublié.
Oui, je vais tout Est-ce, à l'heure, j'ai regardé.
C'est vrai,
oui,
on le dira. Guernica, alors, ce poème a été interprété, dit, sur un fond musical par un artiste lyonnais qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelait André Tavernier. Je vous propose oui. donc d'entendre le poème Guernica de Paul Éluard par André Tavernier. Puis ce sera suivi d'une courte plage musicale par Noël Ashcott, qui interprète un morceau qui s'appelle Guernica aussi, qu'avait écrit Albert Heller en hommage à aux victimes de ces massacres.
Visages bons au feu, visages bons au froid, au refus, à la nuit, aux injures, aux coups. Visages bons à tout, voici le vide qui vous fixe. Pauvre visage sacrifié, votre mort va servir d'exemple. La mort, cœur renversé. Ils vous ont fait payer le pain de votre vie. Ils vous ont fait payer le ciel, la terre, l'eau, le sommeil, et même la misère noire de votre vie. Gentils acteurs, acteurs si tristes mais si doux, acteurs d'un drame perpétuel, vous n'avez pas pensé la mort, la peur et le courage de vivre et de mourir. La mort, si difficile et si facile. Les balles des mitrailleuses achèvent les mourants. Les balles des mitrailleuses jouent avec les enfants mieux que le vent. Par le fer et par le feu, l'homme est creusé comme une mine, creusé comme un port sans vaisseau. Les femmes, les enfants ont les mêmes roses rouges dans les yeux. Chacun montre son sang. Les yeux des morts ont l'épaisseur de la terreur. Les yeux des morts ont la minceur des terres arides. Les victimes ont bu leurs larmes comme un poison. Sur les hommes du sang, sur la bête du sang, une vendange dégoûtante et plus puante que les bourreaux eux-mêmes, pourtant purs et propres. Tous les yeux sont crevés, tous les cœurs sont éteints. La terre est froide comme un mort. Monument de détresse, beau monde des masures, de la mine, des champs. Mes frères, vous voilà transformés en charognes, en squelettes brisés. La terre tourne en vos orbites, vous êtes un désert pourri. Et la mort a rompu l'équilibre du temps. Vous êtes les sujets des vers et des corbeaux, et vous fûtes pourtant notre espoir frémissant.
Thank you.
Voilà, après le poème de Paul Éluard, dit interprété par André Tavernier, c'était un morceau de musique intitulé Angel from Guernica par Noël Acotte. Vous écoutez Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios, l'émission Bistanclac consacrée ce soir à la guerre d'Espagne autour de la commémoration de cette semaine. Le 26 avril 1937 avait lieu le bombardement de Guernica il y a 70 ans. Avec nous, Alain Bujard, responsable de l'Institut CGT d'Histoire Sociale Rhône-Alpes, pour évoquer ces différents épisodes de la guerre d'Espagne. En une heure, on n'arrivera pas à être exhaustif, mais enfin, on voulait donner un certain nombre d'informations et un éclairage particulier sur ces événements que l'on commémore. Je lui rends la parole.
Alors, nous avons parlé des brigades internationales. Il y a donc les combattants qui sont allés en Espagne. Et il y a ceux qui, évidemment, sur place, en France ou ailleurs, ont organisé la solidarité à l'Espagne. Alors, il faut bien se dire que les brigades internationales méritent bien leur qualificatif d'international, car ces volontaires viennent vraiment de tous les pays, aussi bien d'Europe que d'Amérique, voire même de Chine, on a trouvé quelques volontaires chinois, même d'Afrique du Nord aussi, on en parle assez peu, ils sont peu nombreux, mais il y en eut. Et donc, lorsque les volontaires quittaient leur famille, eh bien, il fallait d'une part assurer la solidarité en direction des familles, et il fallait aussi assurer la solidarité aux combattants en Espagne. D'où très rapidement l'idée de constituer un petit peu de partout des comités d'aide à l'Espagne. Ils fleuriront, et soit sous la forme d'un comité national, puis ensuite, j'ai envie de dire, chaque force politique créera son propre comité. Aussi bien le Secours Rouge International, qui était initialement une création de l'International communiste, que le Solidarité internationale antifasciste, qui est une création plutôt anarchiste, chacun va donc relever les manches pour collecter aussi bien des fonds que du matériel, des vêtements, des vivres, pour expédier donc à l'Espagne. Cette solidarité, elle laisse des traces dans absolument tous les pays. Alors, hormis évidemment les pays fascistes, avec quand même, comme ça, à titre anecdotique, parce qu'on parle assez peu de ce pays dans cette affaire, il s'agit de la Suisse. Alors la Suisse, c'est un cas un peu particulier, parce que les Suisses prudents se disent « c'est gênant d'aider la République, parce que si jamais c'est Franco qui gagne, comment est-ce qu'on va faire pour faire des affaires avec lui ?» Alors notre neutralité veut que l'on soit encore plus neutre que la non-intervention. Donc, n'y allons pas. Et ils vont plus loin, car ils vont interdire toute quête sur la voie publique en faveur de l'Espagne, et bien évidemment interdire tout départ de citoyens suisses.
Pourtant, il y en a eu.
Pourtant, il y en a eu. J'en ai même trouvé un qui m'avait envoyé un mot en disant « merci au contrôleur de la SNCF, qui n'était pas encore la SNCF à l'époque, mais qui n'ont pas été très regardants sur nos billets quand ils savaient qu'on allait en Espagne. » Il y a donc eu beaucoup de Suisses qui sont partis. Oui. Au plan général, il y a quand même en gros plus de 35 000 volontaires qui sont recensés, mais ils ne seront jamais plus de 15 000 sur place en même temps. Et parmi ceux-ci, il y a quand même 9000 volontaires français, dont 3000 mourront au cours des combats sur place. Parmi ces volontaires français, eh bien, il y a des volontaires de la région lyonnaise, oui. La région lyonnaise est, de ce point de vue-là, assez particulière, parce que l'on a toujours la vision un peu centralisatrice des choses et que tout se passe par Paris. Il est vrai que Paris a été, un, la plaque tournante et le centre de recrutement des brigadistes, mais Lyon peut très bien soutenir la comparaison. Pour une raison qui est simple, c'est que c'est une région ouvrière importante, avec des municipalités communistes. Et par ailleurs, c'est du point de vue de sa situation géographique un lieu de passage. Donc il est clair que on va voir arriver des Allemands, des Suisses, des Italiens, ou bien des gens des pays du Nord qui passeront obligatoirement par Lyon. Alors un étudiant qui avait fait une recherche sur le sujet est allé consulter les archives des chemins de fer, et donc a retrouvé dans les gares des Brotteaux et de Perrache que dans la période, eh bien, on avait vendu un surplus d'environ 1500 billets pour la direction de l'Espagne. Donc il est vraisemblable qu'il y a au moins 1500 personnes qui ont pris le train pour partir en Espagne. Ce qui ne limite pas le nombre de volontaires à ceci, parce que il y avait bien évidemment des départs qui se sont faits par camion, par car, voire par voiture individuelle. J'ai un témoignage de deux volontaires qui sont partis depuis Saint-Jules à la place de Trion à bord d'une voiture, tous les deux, et qui sont partis en Espagne comme ça. Donc les moyens d'accès sont extrêmement divers. Ce qui explique en même temps que ceux qui n'étaient pas pris dans une filière et donc entre autres ne passaient pas par les convois, par le train, ceux-ci vont se trouver happés à l'arrivée par toutes les milices qui attendent des hommes et qui donc les prennent. C'est ce que l'on va trouver dans le film de Ken Loach, par exemple. On a des témoignages de militants lyonnais qui, étant partis pour rejoindre les brigades internationales, se sont retrouvés dans la brigade de Berthoumieux de la colonne d'Urruti. Ils y sont restés pour se battre parce qu'il fallait se battre là, c'est pas... C'était pas le problème. L'ensemble du recrutement et de l'aide aux brigades internationales à Lyon est quand même piloté par Jean Héroldi, qui est le secrétaire fédéral du Parti communiste à l'époque, et qui donnera beaucoup pour l'Espagne. Il accompagnera assez souvent des volontaires par le train, avec eux, mais... comme sa présence quand même à Lyon est importante, il ne fera guère que des allers-retours. Alors la mission essentielle, outre le recrutement, c'est donc là où surtout ce que l'on a dit, la solidarité, la collecte d'armes et vêtements. Et en gros, il y a pratiquement un camion qui part toutes les semaines en direction de l'Espagne. Il faut dire que c'est créé à Lyon, en plus des comités qu'on a indiqués, sur Secours Rouge International, sur Solidarité Internationale Antifasciste, il s'est créé un comité qui s'appelle le comité Lyon-Valence. Dans ce comité Lyon-Valence, on retrouve tous les responsables politiques et peut-être là où on l'attendait pas, mais on trouve quand même Édouard Herriot qui décide de participer au comité Lyon-Valence. Bien qu'il ne soit pas favorable aux républicains espagnols, puisqu'on lui prête ce propos en direction de Léon Blum, qui hésitait pour savoir s'il devait aider ou pas l'Espagne, il aurait dit à Léon Blum, « Mon petit, ne va pas te fourrer dans ce guépier. » Donc, il plaidait pour la non-intervention. Alors, ça ne l'empêchera pas donc de participer au comité qui s'appelle le comité Lyon-Valence, qui correspond donc à un jumelage, d'une certaine manière. Et il aidera les organisations à collecter, à structurer les comités un peu de partout. Il aidera par-ci, par-là. Il aidera en particulier lorsque les premiers réfugiés, en particulier les enfants, seront sortis d'Espagne parce que la situation est devenue périlleuse pour la population civile, lorsqu'en particulier on va lancer le mot d'ordre d'évacuer Madrid. C'est le mot d'ordre que lancera le gouvernement. Donc les enfants sont expédiés en France, et à Lyon, c'est la Fédération des métaux CGT qui prend en charge une vingtaine d'enfants de républicains espagnols qui sont logés au château de la Halle, qui est donc là dans les monts du Lyonnais, et ils seront en cela aidés par Édouard Herriot pour payer un peu la facture. Donc il y a... une aide qui touche un petit peu toutes les couches politiques, j'aimerais dire quand même de gauche. La droite est non seulement absente dans l'affaire, mais elle va plutôt se contenter de mener des campagnes de presse épouvantables contre Blum. Et c'est eux qui traduiront le mot d'ordre bien connu de Frente Popular et Frente Crapular. Bon, on retrouve des thèmes là aussi qui évoquent quelques événements plus récents. Voilà, donc cette aide se fait comme ça. Alors, les volontaires qui partent de Lyon, qui sont-ils ? Eh bien, on va trouver beaucoup de militants syndicalistes, bien sûr. Mais on va trouver aussi, et là, c'est aussi une originalité quand même, on va trouver pas mal d'élus, des élus municipaux, parce que la grande ville communiste de la région lyonnaise, c'est Villeurbanne à l'époque. Et donc Villeurbanne va fournir des volontaires qui sont parmi les conseillers municipaux villeurbannais. Et il y a même, j'en ai pas trouvé la trace, mais on m'a affirmé qu'il y avait dans l'hôtel de ville de Villeurbanne un bureau, qui était un vrai bureau de recrutement des brigades, ce qui était quand même le signe qu'on ne cachait ni ses opinions ni ses engagements. Alors il y a beaucoup de ces conseillers municipaux qui partent, et il y a aussi sur place, c'est une affaire qu'il faut citer, il y a des artisans mécaniciens qui mettent à profit leur savoir-faire pour fabriquer quelques engins explosifs, des bombes et grenades par exemple, ce qui fait qu'un jour ils sont démasqués par la surveillance du territoire, qui s'appelait pas encore comme ça à l'époque, mais c'est du même genre, et qui donc va leur valoir un procès retentissant, qui va entraîner aussi une mobilisation extrêmement forte. Ils ne seront pas poursuivis finalement. Le président du tribunal leur rendant hommage, disant que ces hommes avaient eu le courage d'aller au bout de leurs convictions et que c'était suffisamment rare pour pouvoir être salué. Il s'agit de Raymond Bussière qui périra lors de la Seconde Guerre mondiale. Il y a Jean-Claude Prudent, qui était aussi conseiller municipal, qui sera blessé. Et donc, revenant en France, va mettre à profit, si j'ose dire, son incapacité physique pour aller de meeting en meeting, plaider l'aide en faveur de l'Espagne républicaine. Prudent entrera bien sûr dans la résistance, et là, après avoir été repéré sur Lyon, il sera évacué dans la région de Limoges. Et là, transportant un poste de transmission, il disparaît. On a perdu sa trace. On ne sait dans comment il a disparu. Le cas de Prudent est un cas qui sera reproduit à de nombreux exemplaires, puisque les anciens des brigades vont être bien évidemment les premiers résistants à l'occupation nazie et au régime de Vichy. Alors on peut, si tu veux, à partir de là... considérant que les batailles ont été menées, elles ont été menées avec l'inégalité que j'ai soulignée, inégalité qui est renforcée par le fait que l'Espagne républicaine, ne pouvant obtenir les armes qu'elle souhaitait, demande au moins qu'elle puisse acheter les armes sur le marché libre, si j'ose dire. Et c'est pour ça en particulier que l'or espagnol va se retrouver à Moscou, et Moscou va mettre sur le marché l'or espagnol pour le transformer en dollars, de manière à ce que l'Espagne puisse acheter des armes. Mais comme on achète des armes sur le marché des trafiquants, ces armes ne sont pas toujours très compatibles entre elles, et on trouvera de nombreux cas de fusils d'un côté avec des munitions qui ne sont pas de même calibre après. Donc ça aussi contribue à ne pas aider les républicains espagnols. Donc finalement, au cours du temps, petit à petit, malgré des combats héroïques marqués par les noms que l'on connaît bien, il y a évidemment Madrid, il y a la bataille de Guadalajara, il y a la bataille de Brunete, il y a les batailles du Jarama aussi, et donc toutes occasions données pour que l'héroïsme des brigades et des Espagnols soit au-dessus de tout éloge et de tout commentaire.
Est-ce qu'on peut dire quelques mots des conditions des réfugiés en France ?
Alors à partir de là, lorsque Franco avance jusqu'à donc la chute de Barcelone, avant la chute de Madrid, bien évidemment ceci provoque un afflux de réfugiés considérable de l'autre côté de la frontière. Alors, ces réfugiés, les autorités consulaires avaient prévenu le ministère de l'Intérieur que, selon leurs estimations, ils seraient environ 50 000. Or, on voit déferler en moins d'une semaine plus de 500 000 personnes, qui arrivent donc à pied, exténués, épuisés, après avoir traversé la montagne pyrénéenne. Ils seront en cela accueillis d'une façon extraordinaire par les gens des villages les plus proches, en particulier le petit village de Prats de Moyo, qui est donc pratiquement à la frontière et sur les flancs des Pyrénées. Et là, ils seront d'abord hébergés avec les moyens du bord, mais il faudra bien évidemment qu'on prenne des mesures suffisantes pour pouvoir accueillir cet afflux considérable de réfugiés. Quelles mesures ? Eh bien, d'abord, on va trouver des lieux avant que de trouver des hébergements. Les lieux, ce sont les plages de Roussillon. Donc, on va accueillir les républicains espagnols et les réfugiés sur les plages d'Argelès, Saint-Cyprien, etc. On va, dans un premier temps, les laisser sur la plage, au vent froid de l'hiver, dans des conditions sanitaires déplorables, jusqu'à ce qu'ils construisent des baraques et donc améliorent un tout petit peu les choses. Mais la France va se couvrir de camps du même type que celui d'Argelès, de Saint-Cyprien. On va trouver à l'intérieur au Vernet, à Gurs. Ce sont des camps que l'on appelle des camps de concentration, même si il faut faire la différence avec le sens qu'on leur donnera après la Seconde Guerre mondiale, car ils sont pas connotés de la même manière, mais il n'empêche que les conditions sanitaires y sont épouvantables. On va rechercher de partout des lieux où on pourra accueillir les réfugiés espagnols. Dans la région, on va faire le recensement de toutes les friches industrielles pour essayer de loger les gens. À Grenoble, on va loger des républicains espagnols dans les locaux de la foire du parc Frédéric Mistral. Mais ça n'aura qu'un temps parce que les gens du voisinage sont incommodés par les odeurs épouvantables des latrines qui ont été creusées dans les pelouses. Et puis, le commerce reprend ses droits. On a besoin du palais pour tenir l'exposition. Donc, il faut qu'on leur trouve autre chose. Alors, on envoie le préfet, fait la tournée. Il trouve des usines désaffectées. Et donc, on va loger les républicains comme ça un petit peu de partout. Il y a un camp à Vénissieux, il y en a un à Vienne. Et ça uniquement pour la région, mais la France se couvre vraiment de lieux, j'ose pas dire d'accueil des républicains espagnols. Et c'est quand même l'un des paradoxes, c'est que autant le mouvement de solidarité en faveur de l'Espagne républicaine a été très fort, sincère, autant l'accueil des républicains espagnols est moins chaleureux, j'ai envie de dire. Ils sont dans leur camp, on pleure sur leur misère, mais ça va gare au-delà. Quel va être le sort de ces réfugiés dans les camps? Eh bien, d'une part, il y a évidemment les émissaires de Franco qui vont venir faire de la retape en disant « Écoutez, rentre en Espagne, la guerre est finie, vous avez rien à craindre ». Il y en a qui vont s'y laisser prendre, d'autres seront quand même plus prudents. Et il y a aussi les émissaires du gouvernement français, ils disent il faut que quand même on trouve une solution. Alors soit c'est par le biais de l'emploi, donc dans des compagnies de travailleurs étrangers, soit on vous offre d'entrer dans la Légion étrangère. Alors ça, les Espagnols ne veulent pas entendre parler de la Légion étrangère. Donc on va contourner la chose et on va inventer un régiment de marche de volontaires d'étrangers dans lequel donc se retrouveront les républicains espagnols. Il faut pas perdre de vue que on est quand même là dans une période qui nous sépare de 3 mois de la déclaration de guerre. Donc on est en phase de préparation de la Seconde Guerre mondiale. Et donc voilà, les Espagnols vont se trouver soit pris comme travailleurs volontaires, soit comme volontaires militaires, soit eh bien sur place ils trouveront quelques combines pour sortir du camp parce que quelqu'un leur a trouvé
travailleurs sans papiers.
Les travailleurs sans papiers, on est déjà là.
Il faut qu'on termine. Hein.
Alors on va terminer. Eh bien, tout ceci va faire que ces militants espagnols qui ont pris les armes en 36 ne les lâcheront qu'en 46. C'est-à-dire qu'ils feront la guerre d'Espagne. Ils seront au premier rang des combattants de la résistance. Ils seront dans l'armée régulière française. Et après avoir fait la totalité des campagnes jusqu'à Berchtesgaden, ils iront même tenter un retour pour débarrasser l'Espagne de Franco. C'est l'expédition du Val d'Aran qui tournera très mal. Il faut aussi, puisque récemment on en a parlé encore, il faut se souvenir que dans la fameuse affaire Manouchian, la fiche rouge, eh bien ils sont un certain nombre qui sont des anciens des brigades. Et les anciens des brigades étaient l'objet d'un traitement spécial de la part des autorités militaires allemandes. Quand ils arrivaient dans un lieu où ils faisaient prisonniers des travailleurs volontaires étrangers, ils faisaient le tri suivant qu'ils étaient des Espagnols rouges ou pas. La plupart sont déportés au camp de Mauthausen, et donc là aussi le taux de mortalité sera extrêmement élevé. Beaucoup restent en France, après, en disant qu'ils ne remettront pas les pieds en Espagne tant que Franco sera là. Et il faudra attendre pratiquement ces dernières années là pour que petit à petit se fasse jour la demande de réhabilitation des combattants républicains, de la condamnation du fascisme. Donc il y a un vrai mouvement actuellement en Espagne qui est pour la disparition de toutes les traces du franquisme et de toutes les atrocités qu'il a pu commettre. Et je dirais, en même temps, on voit, et c'est peut-être pas très étonnant que ce soit ce pays qui est à l'origine de la chose, enfin on observe qu'en Pologne, un pays qui est actuellement gouverné par l'extrême droite, avec l'aide d'une église qui passe pas pour être la plus progressiste des églises, eh bien, la tentative est lancée de dénier à tous les volontaires polonais des brigades internationales le droit à être reconnus comme anciens combattants, c'est-à-dire on va leur supprimer leur pension éventuellement, on va les déchoir des titres militaires qu'ils ont pu acquérir. C'est une vraie chasse aux sorcières qui est en train de s'installer en Pologne. Alors, l'association des combattants en Espagne républicaine, ou tout au moins les amis des combattants en Espagne républicaine, a lancé une pétition en faveur des républicains espagnols, et donc elle est accessible sur le site de l'association, dont l'adresse électronique est donc www.acer.fr. J'invite tous les auditeurs à prendre connaissance de cette pétition et à la signer massivement. Merci à toi.
Merci à vous. Et on se quitte avec une très courte interprétation lyonnaise de El Paso del Ebro.
Ejército del Ebro, rumbarum, barum, bam, bam. El ejército del Ebro, rumbarum, barum, bam, bam. Una noche me pasó, ay, Carmela, ay, Carmela, ay. Una noche me pasó, ay, Carmela, ay, Carmela. Y las tropas invasoras, rumbarum, barum, bam, bam. Y las tropas invasoras, rumbarum, barum, bam, bam. Buena paisa de yo, ay, Carmela, ay. Combatimos rumba ra rumba ra rumba ra, pero igual que combatimos rumba ra rumba ra rumba ra, con el que por existir, ay Carmela, ay Carmela, ay. Con el que por existir, ay Carmela, ay Carmela, ay.
Quand il chante la femme, son frère, son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est distant-claque. C'est pas de la rengaine à gaver les enfants, pas des tubes que reprennent les gros guerres d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est distant-claque. Thank you.
on les claque. Quand le fascisme avance en un mètre de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redisent, ils noircissent le printemps, aucune chance qu'on les vise, mais on les claque. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est bistan claque.
«
Quand les cons se redisent qu'ils noircissent le printemps, qu'une chance qu'on les vise, mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance sans même être dedans, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. Par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais il y a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redisent, noircissent le printemps, qu'une chance qu'on les bise, mais on les claque, on les bise.